Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Avec à la coordination ce matin Sophie Catherine Gallet, à la réalisation Massimo Bellini, à la prise de son Jean-Michel Bernot. Bonjour tout le monde, le réveil culturel est consacré au cinéma tous les mercredis, ça vous le savez. Et aujourd'hui je reçois le jeune cinéaste égyptien Aboubakr Chaouki dans le premier film Youm ad-Din, sélectionné en compétition officielle dans le dernier festival de Cannes, sort au cinéma. Et il sort au cinéma bien sûr aujourd'hui. On parlera aussi du festival des trois continents qui s'ouvre la semaine prochaine, c'est la 40e édition de ce festival nantais, et son directeur artistique, Jérôme Baron, est avec nous aussi ce matin. Merci à ceux qui nous écoutent tôt le matin à la radio et aux abonnés du podcast du Réveil Culturel, podcast et écoute en ligne disponible sur franceculture.fr.
Le Réveil Culturel, mercredi, cinéma.
Bonjour Aboubakr Chaouki, Zayek.
Alhamdulillah.
Kullu tamam.
Alhamdulillah, kullu tamam.
Bon, on va switcher maintenant en anglais, sinon Pascal Fougère nous parlera pas traduire vos propos. Alors, vous avez 32 ans, votre premier film, Youm ad-Din, sort en salle aujourd'hui en France. C'est un road movie puisqu'il nous entraîne sur les routes de campagne égyptienne, c'est-à-dire loin des vestiges du Caire et de l'Égypte touristique. Mais tout l'intérêt du film réside justement dans le fait que ce voyage dans cette Égypte profonde se fait en compagnie de deux exclus de la société. D'abord Béchaï, le quadragénaire lépreux, et un jeune orphelin surnommé Obama. Tous les deux veulent retrouver leur famille, et le film Youm ad-Din s'ouvre donc dans une léproserie, c'est là où ils vivent, les deux protagonistes de votre film. Une léproserie donc, c'est ce lieu qui vous a inspiré cette fiction, un lieu que vous avez découvert, me semble-t-il, nous avions discuté de cela à Cannes, à l'occasion d'un documentaire.
Right. 10 years ago, I made a documentary about this leper colony.
Oui, j'ai effectivement fait un documentaire sur cette léproserie il y a 10 ans, et puis j'avais entendu plein d'histoires au sujet de gens qui avaient été abandonnés là et qui avaient été complètement oubliés par leur famille. Et je trouvais que c'était intéressant de retourner dans cet endroit et de faire un film dessus. C'est quelque part la genèse de Youm ad-Din.
Et comment la fiction est arrivée dans ce processus de travail de documentariste d'abord?
It's mostly because I was just very fascinated by the idea that there's something like this still exists.
C'est principalement parce que j'étais très fascinée par le fait que quelque chose comme ça existe, parce que la lèpre est une maladie rare, une maladie très ancienne, et la plupart des gens ne savent pas qu'elle existe encore, et la plupart des gens ne savent pas qu'il existe de léproserie encore en Égypte. Et donc aller là et faire un documentaire et ensuite entendre toutes ces histoires de gens qui disaient on n'a plus jamais entendu parler de notre famille depuis qu'on est là. Et je me suis dit que peut-être là, il y avait un road movie intéressant. Peut-être que là, il y avait quelque chose qui justifiait un retour en cet endroit.
Youm ad-Din de Abé Chaouki qui sort aujourd'hui.
الو ايوه يابا تعال خدنا انا مستنيك على الباب
حلوه دي يعني محدش هامكم يعني ما تعرفوش اهلكم فين
Youm ad-Din, donc premier film de ce jeune cinéaste égyptien, mon invité aujourd'hui, Aboubakr Chaouki. Nous voilà donc sur les routes de l'Égypte, des Mallotis en compagnie de Béchaï, donc, et son corps mutilé par la lèpre, et le jeune Obama, et son visage nubien, voyageant sur une charrette branlante tirée par un âne essoufflé. Il va bien sûr leur arriver, bien évidemment, de nombreuses mésaventures, et ils feront des rencontres avec d'autres Égyptiens tout aussi marginaux qu'eux. Alors, bien sûr, Aboubakr Chaouki, votre film nous rappelle tout ce cinéma des frics. C'est impossible, quand on voit Béchaï qui dissimule son visage dans une cagoule, de ne pas penser à Elephant Man de David Lynch sans remonter à la monstrueuse parade de Todd Browning. Est-ce que ce cinéma-là vous a aussi inspiré dans la réalisation de ce premier long-métrage?
Oui,
tout à fait. L'influence d'Elephant Man et de David Lynch est très très claire dans ce film. C'est un film qui est cher à mon cœur et je trouvais que d'une certaine manière, on avait besoin de retrouver montrer ça dans un contexte contemporain. Et évidemment, il y a une scène hein, qui est un hommage à David Lynch où Beshaï dit « Mais je suis un être humain hein, », un petit peu comme exactement dans le film Elephant Man, le personnage le disait à la gare de Liverpool. Et c'est la même chose sur le film de Todd Browning, Freaks. Les monstres. Ce que je voulais montrer, c'était que ces gens-là n'étaient pas des monstres, en fait, hein, et que si on regarde suffisamment longtemps les gens, évidemment, on arrive à oublier tout ça et on pense à d'autres choses par rapport à eux.
Alors, il y a tout cet aspect documenté de votre fiction, puisque d'abord on voit une Égypte qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les films. C'est vraiment l'Égypte très loin des circuits touristiques, ça je l'ai dit en préambule. Et puis ensuite, on voit cette léproserie que vous filmez, c'est une vraie léproserie, et elle est tenue par des Coptes, comme si pour vous c'était aussi important de parler de cette communauté égyptienne.
Because I want to give a voice to people that don't usually see themselves
represented
in films. Oui,
voilà, j'ai envie de donner une voix à tous ces gens qui ne sont généralement pas représentés dans les films. Le personnage principal est un chrétien copte, et puis Obama, on dit qu'il est de Nubie, mais on n'en est jamais tout à fait sûr, hein, ce n'est jamais prouvé dans le film. Et ils vont effectivement traverser l'Égypte, hein, mais par des routes détournées, en fait, et pas donc sur ces routes qu'on voit généralement dans les films égyptiens. Je voulais montrer une route différente, je voulais montrer une vision d'Égypte un petit peu plus large, et quand ils vont rencontrer une pyramide, c'est pas celle de Giza que tout le monde connaît, hein, c'est une de ces pyramides ignorées de tous qui se trouvent au milieu du désert et que personne ne va jamais voir. Et je voulais montrer donc l'Égypte sous une lumière différente, sous un jour différent.
Alors Youmedine, on l'a compris, c'est vraiment un film dont le héros est un homme victime de la lèpre et qui traverse le pays en compagnie d'un orphelin nubien, donc c'est l'Égypte des exclus. Et vous, en tant que réalisateur, Aboubakr Chaouki, quelles questions vous vous êtes posées quand il fallait filmer vos personnages, parce que à un certain moment ils vont rencontrer un Kudjat, ils vont rencontrer toute la misère. Est-ce que vous vous êtes posé la question comment les filmer?
My main intention was to show it to their eyes.
Ma principale intention était de rendre tout ça visible à leurs yeux. Hein. Et bien sûr, il pouvait y avoir beaucoup de misère dans leur vie quand nous, on les regarde. Mais le plus souvent, la pitié ressentie ou exprimée par rapport à des gens comme ça, elle vient de l'extérieur. Les gens qui traversent ces moments très, très difficiles hein, ou qui sont juste des exclus, comme vous dites, ne ressentent pas cette pitié. Et d'une certaine manière, ils vivent dans ces conditions-là et point. Et effectivement, quand j'ai rencontré Roddy, le personnage principal, où je me suis dit que c'était intéressant de montrer comment les gens voyaient leur vie, comment ils la vivaient. Et c'est pour ça que ce film avait aussi, on va dire, ce côté très optimiste, hein, parce que en dépit de toutes les difficultés qu'ils vont rencontrer dans leur voyage, il les traverse avec le sourire sur le visage, qui est aussi une caractéristique très égyptienne, en fait, hein, d'arriver à voilà, passer à travers tout ça juste avec un sourire.
Aboubakr Chaouki, est-ce que ce film parle aussi de la montée des intolérances dans votre pays particulièrement et dans le monde d'une manière générale?
Yeah, I think in a world where everything has become very anxious and very dangerous,
tout est devenu très anxiogène et très dangereux. C'est pas quelque chose qui est spécifique à l'Égypte. Hein. Je crois que c'est quelque chose en fait qui est spécifique à nous tous. On devient très intolérant envers l'autre, quel qu'il soit. On n'arrive plus à comprendre l'autre, quel qu'il soit. Et je crois qu'effectivement, c'est quelque chose qui est très dangereux parce que la stupidité humaine a pris le pouvoir. Hein. Et j'espère, je ne sais pas si les films peuvent changer les gens à 100%, mais je crois que peut-être quelqu'un qui voit un film au niveau individuel, lorsqu'il voit quelqu'un, va oublier d'une certaine manière tous ses préjugés sur le langage, le la provenance sociale, la religion, etc.
La religion est très présente dans ce film. Par exemple, on voit bien que la léproserie est tenue par des Coptes. Pourquoi ce sont les Coptes, d'ailleurs, qui s'occupent des léproseries en Égypte?
Je pense que historiquement, il y a eu une connexion entre la communauté chrétienne et les léproseries. La majeure partie, effectivement, des léproseries sont soutenues par des organisations chrétiennes et sont soutenues par des ONG chrétiennes. Mais ils n'essaient pas non plus de dominer quoi que ce soit. Par exemple, Rodi, l'acteur principal, est un musulman. Il n'est pas pratiquant, mais il était né musulman. Et sa vie a été sauvée par une religieuse catholique. Il a donc été élevé au sein d'une communauté catholique, mais cette religion n'a jamais été imposée. Donc, ça montre bien que, voilà, dans cette léproserie, les gens, d'une certaine manière, partagent cette misère de la maladie et que donc la religion devient quelque chose qui n'est plus essentiel.
Alors,
la connexion historique, le lien historique, on la retrouve dans la Bible, puisque Jésus soignait les lépreux, et c'est la connexion historique, et c'est pour ça qu'il y a effectivement une implication de l'Église et une implication de différents organismes de charité vers les léproseries.
Pourquoi votre film s'appelle Yom HaDin, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, c'est ça?
So Yom HaDin refers to a specific scene in the film where
oui, Yom HaDin, ça se réfère à une scène particulière du film, où on parle des divisions qui existent entre les gens. Quand j'ai fait le documentaire il y a 10 ans, l'un des patients de la léproserie m'a demandé « Mais quelle différence y a-t-il entre nous le jour du jugement dernier? Nous serons tous égaux. » Et je trouvais très intéressant cette idée-là. Et donc, du coup, c'est devenu le thème du film et que, effectivement, au jour du jugement dernier, on ne sera pas jugé sur l'apparence, mais sur ce qui on a été.
On a parlé un peu de vos références cinématographiques à Aboubakr Chokri à Cannes. Vous nous aviez expliqué au mois de mai à quel point votre mère a été très importante puisqu'elle vous emmenait à Paris pour voir le cinéma indépendant iranien, entre autres cinéma que vous avez découvert avec elle. Et puis tout de suite, on est arrivé à parler de Youssef Chahine. Alors, actuellement, vous le savez, la Cinémathèque rend hommage au grand metteur en scène égyptien avec une exposition, mais aussi une rétrospective de ses films les plus importants en version restaurée. Chahine dans tous ses états, ça, c'est jusqu'à cet été à la Cinémathèque française. Et vous m'aviez cité deux films importants qui vous ont marqué et qui vous ont accompagné pendant la réalisation de ce premier film, Yom HaDin. C'est Gare Centrale, parce que vous me disiez à l'époque, Chahine était le premier à montrer des marginaux d'une manière très crue. Et puis aussi, ce film mal connu de Youssef Chahine, Le Sixième Jour, adapté d'André Chédid avec l'excellente Dalida dans le rôle de la grand-mère Sadika. Et vous me disiez que vous aviez aussi, vous aimiez beaucoup ce film, et le côté road movie du Sixième Jour vous a peut-être un peu influencé pour Yom HaDin.
Yeah, absolutely. I mean, those films contributed a lot.
Oui, tout à fait. Ces deux films ont été très importants dans mon éducation de cinéphile. Et je crois que Chahine, en général, c'est quelqu'un qui n'est pas suffisamment montré dans le cinéma mondial. J'ai passé de nombreuses années à étudier le cinéma et je n'ai jamais entendu son nom dans aucun de mes cours. Et je pense que c'est vraiment très, très dommage parce que ces films ne sont pas seulement puissants, Hein. Pour moi, c'est également en fait des pierres de touche, des étapes extrêmement importantes pour le cinéma moyen-oriental, particulièrement Gare Centrale. Hein, et je pense que voilà, c'est un film qui, dans les années 50, a changé le cinéma égyptien. Et si on parle du Sixième Jour, hein, un de ses films moins connus, je n'arrive pas à comprendre comment c'est un film qui ne soit pas plus connu, parce que pour moi, c'est un des meilleurs films de Youssef Chahine. Je crois que les films de Chahine, on y retrouve ce que je disais à propos de l'Égypte, c'est-à-dire des misères absolues qui côtoient des énormes bonheurs. Et il y a aussi ce film Le Destin, c'est a été une des études les plus intéressantes à propos de l'extrémisme religieux. Hein. Et je pense que tous ces films devraient être partagés et bien plus étudiés qu'ils ne le sont.
À qui le dites-vous ? Nous avons consacré une vie, une œuvre à Youssef Chahine qui a été diffusée samedi dernier. Émission, bien sûr, à retrouver sur franceculture.fr.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ولسه ياما 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 في عمرنا علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة علي صوتك علي صوتك بالغنى لو في يوم رح تنكسر لازم تقوم واقف كما النخل باصص للسما للسما ولا انهزام ولا انكسار ولا انهزام ولا انكسار ولا خوف ولا ولا حلم نابت في الخلا في الخلا علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة
Aboubak Chaouki, si je vous dis que pour moi c'est le plus grand chanteur égyptien vivant, vous êtes d'accord en ce qui concerne Mohamed Mounir, qu'on vient d'entendre dans le réveil culturel sur France Culture? Une manière aussi de saluer ses prestations dans les films de Youssef Chahine et de saluer votre premier long métrage, Youm Eddine, qui sort aujourd'hui au cinéma.
Oui, je suis tout à fait d'accord.
And he was also one of the actors in the sixth
et
day.
C'était aussi l'un des acteurs dans le sixième jour.
Excellent. Avec nous, un autre spécialiste de ces cinémas qui nous viennent des trois continents que sont l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine, c'est-à-dire le directeur du Festival des Trois Continents. La 40e édition s'ouvre la semaine prochaine. Bonjour Jérôme Baron.
Bonjour.
Vous avez vu Youm Eddine, le film de notre invité ce matin, Aboubakr Chaouki. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment vous l'avez, vous qui suivez la cinématographie égyptienne depuis quelques années?
Très précisément, le film s'inscrit pour moi dans une tendance, qu'on pourrait encore dire discrète, mais de fond, de ce cinéma égyptien récent, dont les films sont réalisés pour la plupart par des gens qui ont entre 28 et 35 ans, c'est-à-dire l'âge d'Aboubakr Chaouki, et qui probablement réinvestissent de manière très très variée, puisque les films sont très souvent d'empreintes documentaires et faits avec des moyens modeste, une manière de remettre le cinéma à la hauteur de ce peuple égyptien, après tout ce qu'il vient de traverser de secousses et d'inquiétudes pendant des années, puis ça s'est pas malheureusement pas arrêté. Alors c'est pas tant d'une autre Égypte que ces films semblent témoigner, mais d'une Égypte interrompue dans sa course à une émancipation, à une rébellion et à la poursuite de ses rêves, pour le moment contenu, étouffé, un peu empêché, qu'on voit dans de nombreux documentaires récents. Alors évidemment, le film s'inscrit à travers les figures du peuple qu'on voit apparaître dans la plupart de ces documentaires et fictions, dans la lignée de ce que Yom Eddine déploie avec ses deux personnages et tous ceux qu'il croise au fil de la route, quoi.
Alors justement, Abou Bakr Chaoukri, comment les Égyptiens ont réagi à votre film ? Est-ce qu'il est sorti au cinéma ? Et dans un pays où le star system est toujours aussi fort, le fait qu'un film indépendant avec que des acteurs non professionnels à l'intérieur sortent dans une salle de cinéma d'Égypte, est-ce que c'est pas déjà exceptionnel ?
Absolutely, we were very blessed.
Oui, tout à fait. Je crois qu'on a été extrêmement bénis des dieux puisqu'on est dans notre sixième semaine d'exploitation commerciale et les retours sur le film étaient absolument incroyables. C'est-à-dire, on a effectivement un retour des gens de la rue, mais on a aussi des messages des gens qui nous disent qu'ils allaient voir le film et qu'ils attendaient quelque chose de différent. Une espèce de film un peu licoreux, insistant trop sur la pitié et disant que c'est pas du tout ce qu'ils trouvent. Et ça me rend très très heureux de pouvoir montrer un film comme ça. Et voilà, je pense que à partir de là, j'espère que les gens seront très contents de voir ce film indépendant, qui est encore plus indépendant que les films indépendants auxquels on est habitué. Donc, on a vraiment beaucoup de chance de pouvoir le montrer dans les cinémas en Égypte.
Abou Bakr Chaoukri, ce film, vous l'avez tourné avec notamment des coproducteurs non égyptiens. Est-ce que ce film vous installe dans l'industrie du cinéma égyptien? Est-ce que vous avez d'autres projets de films que vous pourriez maintenant réaliser dans votre pays?
Ce
film a été fait principalement avec des producteurs égyptiens. On a eu de l'argent qui venait de donateurs privés. C'était aussi mon film de fin d'études pour mon école de cinéma à l'université de New York. Mais les producteurs sont principalement égyptiens. Et il y a évidemment un côté très très égyptien. Alors est-ce que ça m'inscrit dans le paysage du cinéma égyptien? J'en sais rien. Je crois qu'on a juste essayé de faire le film auquel on croyait, un film qu'on pensait important à voir pour les gens, le genre de film qu'on avait envie de voir nous dans les cinémas. Voilà.
Et enfin, on revient à vous, Jérôme Baron. Est-ce que vous pouvez nous donner les principaux événements qui nous attendent à Nantes pour cette 40e édition du Festival des Trois Continents?
Pour cette 40e, on a voulu une édition résolument contemporaine dans sa programmation. Tout le monde s'est aperçu que depuis une petite vingtaine d'années, le passage au numérique, les choses se sont un peu redéployées sur la carte du cinéma mondial. Des pays de peu d'existence se sont mis à produire des films en nombre. Et puis l'appropriation des outils, ici ou là, ont permis à des cinéastes de voir le jour et de devenir, pour un certain nombre d'entre eux, même des références du cinéma contemporain. L'idée était de cartographier à travers 40 films pour les 40 ans. C'est un des programmes de l'édition, cette reconfiguration de la carte cinématographique entre ces trois continents, africains, latino-américains et asiatiques, avec des films qui courent de la fin des années 90 jusqu'à 2018, puisqu'il y a aussi des films de cette année dans l'édition, notamment on pourra voir La Flore de Mariano Sinas, le fameux film argentin de 14 heures qui a un peu fait événement au Festival de Locarno cet été, revoir un peu plus lointainement une version numérique de À l'ouest des rails de Wang Bing, qui a été un film jalon, un film primé à Nantes, puisqu'on parlait de l'Égypte à l'instant, le film de Tamer El-Saïd, Les derniers jours d'une ville, imprimé il y a 2 ans, quelques films chinois, dont Elephant Sitting Still de Hubo, qui a fait grand bruit à Berlin cet hiver, et qui est un film assez long aussi, d'un cinéaste qui malheureusement n'en fera plus, puisqu'il s'est donné la mort à un très jeune âge, 29 ans. Et puis des films de cinéastes déjà beaucoup plus référencés, ou en tout cas déjà posés comme des noms, Kiyoshi Kurosawa, Apichatpong Verasethakul, et bien d'autres. Mais aussi une ouverture à des choses qui sont auxquelles le cinéma est poreux, c'est-à-dire des images qui jusque-là lui restent extérieures d'une certaine manière et qui le contaminent. Je pense notamment à des films de collectifs brésiliens qu'on a décidé d'associer, qui sont souvent des courts-métrages, et des films qui sont souvent tournés avec des outils des outils quotidiens, hein, des Indiens Guarani qui s'emparent d'un téléphone portable pour filmer les conséquences de la déforestation dans leur environnement direct, qui tentent de reconquérir leur terre à l'intérieur d'un film. C'est une sorte de plus qu'un film militant, c'est un film de revendication active, puisque c'est une reconquête de la terre en acte, ou des choses comme ça. Voilà,
c'est vraiment le festival à ne pas rater, le festival des trois continents. Merci Jérôme Baron d'être venu nous en parler. Je rappelle que pour la 40e édition, vous lancez une collection de livres consacrés à ces cinématographies d'autres continents, mouvance du cinéma présent. Un livre qui sera donc disponible la semaine prochaine à l'ouverture de la 40e édition du Festival des Trois Continents. Ça a été un plaisir de vous avoir, Jérôme Baron, et un très grand plaisir de vous avoir à mon micro, Aboubakr Chaouri. Merci d'être venu.
Merci.
Et l'interview d'Aboubakr Chaouri a été traduite par Pascal Fougère. Merci d'être venu, Pascal, ce matin.
Merci.